Voici une question dont la réponse pourra changer votre vie. Comment pouvons-nous échapper à la condamnation que nous méritons tous pour nos péchés? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse claire et véridique aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, vous qui nous écoutez régulièrement, je suis pas mal certaine que tout comme moi, vous êtes encouragés par le bon enseignement qu'on reçoit ces jours-ci dans l'Épître aux Hébreux. J'ai bien hâte d'entendre ce que ce livre de la Bible a en réserve pour nous aujourd'hui, alors qu'il répondra aux questions que voici. Est-ce que les œuvres d'un croyant peuvent être rejetées par le Seigneur? Dieu accepte-t-il les œuvres qu'on accomplit avant de devenir son enfant? Est-ce qu'un croyant qui trébuche perd son salut? Qu'est-ce qui arrive à une personne qui continue de pécher après avoir reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel? Qu'est-ce que la Bible entend par l'expression « construire avec du bois, du foin ou du chaume » Qu'est-ce qu'on doit faire pour porter du fruit? Comment pouvons-nous échapper à la condamnation que nous méritons pour nos péchés? Restez avec nous, nos réponses ne tarderont pas. Le Seigneur va nous les donner dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la prière. On peut communiquer avec toi n'importe quand. Tu es omniprésent, omniscient. Tu es là, présent au milieu de nous, et tu entends nos prières. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur. Merci. Et ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est que tu disposes nos cœurs à bien comprendre le beau message que tu vas nous donner par la bouche de ton serviteur, par tes saintes écritures. Touche-nous profondément, Seigneur. Aide-nous à retenir ta parole et à l'appliquer dans nos vies. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné différentes interprétations pour les versets 4 à 9 du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux. Relisons d'abord le passage pour vous rafraîchir la mémoire. Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 9. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Quoi que nous parlions ici, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. À la dernière émission, nous avons considéré la thèse que ce passage enseigne qu'il est possible de perdre notre salut. Nous avons rejeté cette thèse avec de nombreux versets à l'appui. Dieu fait renaître ceux qui viennent à son Fils, et son but est de les transformer à l'image de celui-ci. Une deuxième thèse affirme que nous sommes devant un cas hypothétique. Cependant, cette thèse provient du fait que des gens interprètent le texte à partir d'une traduction anglaise qui emploie le conditionnel, ce qui n'est pas le cas du texte original grec. L'auteur ne parle donc pas d'un cas hypothétique. Les tenants d'une troisième thèse affirment que le texte ne parle pas de personnes sauvées, mais de personnes non sauvées qui orbitent autour de l'Église. Témoins de miracles et de la grâce transformatrice de Dieu, ils rejettent tout de même le Seigneur Jésus. Selon une quatrième thèse, ce texte ne s'appliquerait qu'aux croyants hébreux du premier siècle de l'Église. Nous avons terminé la dernière émission sur une cinquième thèse qui est fondée sur l'usage du mot « impossible ». Il est impossible pour un homme de se renouveler, mais tout est possible avec Dieu. Cette thèse est loin d'être satisfaisante. Aujourd'hui, nous allons examiner la thèse que J. Vernon McGee et moi-même trouvons la plus satisfaisante. Le passage ne parle pas du salut, mais des récompenses des croyants. Premièrement, notez que dans ce passage de l'Écriture, l'auteur ne traite pas de la question du salut. Il décrit des personnes sauvées, des personnes que l'Esprit a éclairées, qui ont goûté aux dons célestes et qui ont pris part au Saint-Esprit. Ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont goûté les puissances du siècle à venir. La teneur du texte révèle qu'il parle des récompenses de ceux qui sont sauvés, obtiennent. Le verset 6 dit « Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. » Le verset 6 ne dit pas « amenés au salut », mais à la repentance. Dieu demande aux croyants de se repentir. Par exemple, les 7 lettres adressées aux églises dans l'Apocalypse sont des appels à la repentance. C'est le message qu'il fait parvenir aux croyants. Nos œuvres seront éprouvées pour être rejetées ou récompensées. L'auteur de l'Épître aux Hébreux traite donc du fruit du salut et non de la racine du salut. Notez encore une fois le verset 9. « Quoique nous parlions ici, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. » Notez que l'auteur ne parle pas du salut, mais des choses favorables au salut, des choses qui accompagnent le salut. Il parle des fruits, de la marche chrétienne et des récompenses qu'un chrétien reçoit pour sa fidélité. Dans ce passage, l'auteur avertit les chrétiens au sujet de la perte possible de leur récompense. Il est possible que toutes nos œuvres soient consommées et qu'il n'en reste rien digne d'être récompensé. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Citation de 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 11 à 15. Mes amis, les œuvres de tous les croyants seront éprouvées par le feu. Et du feu, ça réduit ce qu'on y met en cendres. Par exemple, tous les rapports que nous, les pasteurs, remettons au sujet du nombre de conversions et du nombre de baptêmes dans notre Église seront éprouvés par le feu. Et ils ne serviront qu'à l'alimenter si nous avons travaillé pour notre prestige ou dans le but de satisfaire les convoitises de notre chair. Si nous avons marché selon la chair plutôt que selon l'esprit, nos rapports feront une belle flambée. Nos œuvres, qui auront été du bois, du foin et du chaume, il n'en restera que des cendres. Que déterminera notre comparution devant le Seigneur Jésus? Un jour, tous les croyants paraîtront devant le trône de Jésus-Christ. J'aimerais que les croyants se rendent tous compte que ce ne sera pas une expérience agréable, comme une remise de prix où l'on souligne nos réussites et nos bons coups. Le Seigneur va explorer notre cœur en profondeur. Il va nous éprouver pour déterminer si nous avons eu véritablement du fruit dans nos vies. Avez-vous grandi dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous été un témoin fidèle? Avez-vous accompli quelque chose pour l'avancement de son royaume parce que vous l'aimiez? Avez-vous été une source de bénédiction pour les autres? Je ne sais pas si j'ai si hâte de paraître devant le Seigneur Jésus. Il va m'ouvrir et examiner chaque recoin de mon cœur. Il ne me jugera pas pour déterminer si je serai sauvé, mais parce que je suis sauvé. Il déterminera quelle récompense recevront mes œuvres. Notez comment l'auteur illustre le fruit de la vie chrétienne. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. » Les versets 7 et 8. « Si un croyant a porté du fruit, il sera béni et récompensé. S'il produit des épines et des chardons, ses œuvres sont rejetées et non récompensées. » Les œuvres deviennent importantes après notre salut. Lorsque l'apôtre Paul a écrit à Tite, un jeune prédicateur, il lui a dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Tite chapitre 3, verset 5. En lisant cela, nous pourrions penser que Paul n'attache pas beaucoup d'importance aux œuvres. Mais plus loin, il a dit « Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Tite, chapitre 3, verset 8. « Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas et ne contribuent pas au salut de notre âme, mais lorsqu'une personne devient chrétienne, les œuvres prennent beaucoup d'importance. » Mes amis, si vous êtes un croyant, il est important que votre marche chrétienne démontre que vous appartenez au Seigneur Jésus. À l'époque où J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons le matériel, étudiait à l'université, les psychologues débattaient une question. Lequel est le plus important, l'hérédité ou l'environnement? Un des professeurs de McGee donnait cette réponse à la question. Avant la naissance, l'hérédité est le facteur important. Après la naissance, c'est l'environnement qui devient le facteur le plus important. Faisons un parallèle avec notre sujet. Avant de naître spirituellement ou de naître de nouveau, les œuvres ne comptent pas parce que Dieu ne les accepte pas. L'Écriture affirme que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Vous ne vous attendez pas à ce que Dieu accepte un panier de linge sale, n'est-ce pas? Dieu accepte les pécheurs, mais parce que son Fils les a rachetés en versant son sang sur la croix. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Les versets 4 à 6. Nous sommes maintenant au point clé de cette étude. Un croyant qui trébuche ne perd pas son salut. Et qui sont tombés, c'est-à-dire qu'ils ont trébuché. Ce mot n'est pas le même qu'apostasier, c'est-à-dire abandonner et renier sa foi. Nous avons des exemples de personnages bibliques qui ont trébuché, mais qui n'ont pas perdu leur salut. L'apôtre Pierre a renié le Seigneur Jésus à trois reprises. Jean-Marc est retourné chez lui avant la fin du premier voyage missionnaire. Plus tard, cet abandon est devenu un sujet de controverse entre Paul et Barnabas, l'oncle de Jean-Marc. Barnabas voulait prendre Jean-Marc lors du deuxième voyage missionnaire, mais Paul n'a pas voulu. Les deux hommes se sont disputés à ce sujet, et ils ont chacun pris une direction différente. Plus tard, Paul a de nouveau pris Jean-Marc dans son équipe. « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Citation de 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Pierre et Jean-Marc n'ont pas perdu leur salut, mais leur chute a tout de même eu quelques conséquences. Au premier verset de ce chapitre, nous avons vu que Paul ne parlait pas de la repentance qui conduit au salut, mais du renoncement aux œuvres mortes. Jean-Baptiste demandait aussi aux gens de produire des œuvres dignes de repentance. L'Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 8. Il leur demandait de prouver leur repentance par leurs œuvres. La repentance, ce n'est pas verser quelques larmes, mais c'est un changement de direction de notre vie, une nouvelle façon de vivre. Avec quel matériel construisons-nous sur notre fondement? Pourquoi serait-il impossible que ceux qui sont tombés après avoir été éclairés soient renouvelés et amenés à la repentance? Rappelez-vous, nous parlons du fruit ou des œuvres que produit notre salut. Il est très grave de continuer à vivre dans le péché après avoir reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, d'annuler notre témoignage en demeurant des bébés spirituels, en ne croissant jamais spirituellement et en érigeant un édifice de bois, de foin et de chaume. L'apôtre Paul a dit cela en d'autres mots dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Votre salut est un fondement. Vous devez vous appuyer sur celui-ci, mais vous devez aussi construire sur celui-ci. Vous avez 6 matériaux différents à votre disposition. Bois, foin, chaume, or, argent, pierres précieuses. Quel matériel utilisez-vous présentement? Érigez-vous un énorme édifice de bois, de foin et de chaume. De nombreuses églises font exactement cela aujourd'hui. Elles sont si bien organisées et elles fonctionnent avec de nombreux comités. Cependant, est-ce que les vies des membres glorifient vraiment Dieu? Est-ce qu'au ciel, les membres rencontreront des gens qui leur diront « Je suis ici aujourd'hui à cause de ton témoignage et de ta façon de vivre qui m'a touché » ou encore « Je suis ici parce que tu m'as présenté la parole de Dieu » Prenons garde au matériel que nous utilisons pour ériger une structure sur notre fondement. Un exemple de construction avec du bois, du foin et du chaume. Nous voyons beaucoup de personnes, dont des pasteurs, qui construisent en utilisant du bois, du foin et du chaume. Un pasteur ontarien mesurait sa spiritualité par le nombre de personnes qui se joignaient à son église. Il faisait beaucoup de pression sur les gens pour obtenir des professions de foi, et il s'empressait de les baptiser. Il mesurait la bénédiction du Seigneur et sa spiritualité par le nombre de convertis. Cependant, ces personnes, qu'il a acceptées trop rapidement, n'ont pas tardé à faire des scandales et ternir la réputation de son Église. Éventuellement, des membres se sont opposés à lui, et lors de cette période de tension, il est tombé dans l'adultère. C'est cela, construire avec du bois, du foin et du chaume. Plutôt que de rechercher les nombres, il aurait dû rechercher la croissance spirituelle des brebis. Ensuite, le témoignage émanant de leur vie transformée aurait été un instrument puissant pour attirer des gens à son Église. C'est cette méthode qu'a utilisée efficacement un autre pasteur que j'ai eu le privilège de rencontrer. Les membres de son Église veulent servir, et s'il n'y a pas de poste pour eux, ils partent à un autre ministère dans l'Église locale. Ce deuxième pasteur construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Que doit-on faire pour porter du fruit? Nous devons être prudents dans notre marche chrétienne. Nous ne pouvons pas fonctionner avec nos propres forces. Nous devons reconnaître que nous sommes les sarments ou les branches de la vigne, alors que le Seigneur Jésus est le cep ou le tronc. Pour porter du fruit, le sarment doit demeurer attaché au cep, c'est-à-dire être en relation personnelle et intime avec lui. Jésus a dit « Demeurez en moi » et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Jean chapitre 15, verset 4. Pourquoi est-il impossible qu'une personne qui trébuche soit de nouveau amenée à la repentance? Ces personnes n'ont plus aucune crédibilité comme croyants. Elles perdent la confiance des gens. J'ai connu un homme qui a si souvent tombé que les croyants ne pouvaient plus lui faire confiance. Si un croyant vit comme un enfant du diable, il crucifie le Fils de Dieu. Il a tout accompli afin que vous puissiez marcher selon la puissance de l'Esprit. Revenons à notre texte. Lisons Hébreux chapitre 6, versets 10 à 15. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Notez un détail merveilleux. Abraham a persévéré et son assurance s'est affermie alors qu'il a fait confiance à Dieu. Lorsque vous faites confiance à Dieu, vous marchez dans ses voies. En étudiant sa parole, vous grandissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. Vous prenez une assurance pratiquement inébranlable. Hébreux chapitre 6, les versets 16 et 17. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu n'a pas besoin de prêter serment, mais dans ce cas, il l'a fait, ce qui indique l'importance qu'il accordait à sa promesse. Verset 18. Afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le conseil ou le plan de Dieu est immuable. Il en est de même de son serment. Dieu a promis à Abraham de multiplier sa prospérité, et il a été fidèle à sa promesse et à son serment. Genèse, chapitre 15, versets 4 et 5, ainsi que Genèse, chapitre 22, versets 16 à 18. La promesse faite à Abraham, ainsi que la fidélité de Dieu, est un puissant encouragement pour nous. Aujourd'hui, nous avons aussi deux choses immuables pour nous encourager. Premièrement, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et deuxièmement, son ascension au ciel et son intercession pour les croyants. Nous avons donc quatre grands faits pour nous donner de l'assurance et auxquels nous accrocher. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le Seigneur Jésus est notre refuge. Mes amis, j'ai déjà été jugé et j'ai été trouvé coupable. J'ai été un pécheur. J'ai été condamné à l'enfer pour l'éternité. Cependant, cette condamnation a déjà été exécutée. Le Seigneur Jésus a accepté d'être exécuté à ma place. Parce qu'il a donné sa vie en rançon pour la mienne, je suis libre. Je suis libéré de la condamnation qui pesait sur moi. Je ne serai plus jamais jugé en vue d'être condamné à l'enfer. Maintenant, j'ai la pleine liberté de servir Dieu. J'ai maintenant un souverain sacrificateur, un sauveur ressuscité, vers qui je peux me tourner. Terminons notre lecture d'Hébreux 6. Lisons les versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel, sa fonction de souverain sacrificateur ou de grand prêtre revêt une importance particulière. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du voile, c'est dans le ciel. Le Seigneur Jésus est entré au ciel. Il a traversé le voile du lieu très saint et il se trouve en présence de Dieu. Et il lui a présenté son sang versé pour nos péchés, et s'est assis à la droite de Dieu. Puisqu'il est assis à la droite de Dieu, Jésus est un grand prêtre supérieur à Aaron. Celui-ci ne faisait qu'entrer et sortir du lieu très saint. Par contre, notre grand prêtre est assis à la droite de Dieu, ayant terminé son œuvre rédemptrice. Nous ne pourrions pas avoir une ancre plus solide et plus sûre que la personne de Jésus-Christ. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 1 et 2. Bonne lecture à tous.
Merci, Régent. Au cours de l'enseignement d'aujourd'hui, tu as cité un verset qui m'est particulièrement cher, et j'aimerais le répéter pour nos auditeurs. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 18, et même, ce n'est pas vraiment le verset en entier, mais la fin du verset qui m'a réjoui d'une manière bien spéciale. et il dit simplement « nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée ». Je le répète, « nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée ». Je le lis, je le médite et je dis « c'est moi ça ». David dit au 6e verset du psaume 116, « j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mes amis, j'étais malheureuse et Jésus m'a sauvé, lui, mon seul refuge. J'avais tout essayé pour être heureuse, jusqu'à l'âge de 30 ans. J'avais cherché l'amour parfait, ce qui m'avait amené plein de tourments, de déceptions, de chagrins. J'avais cherché la joie, ce qui m'avait conduite dans l'euphorie artificielle de la drogue. J'avais cherché le contentement, ce qui m'avait conduite à la gloire des hommes dans le show business, une gloire qui est tellement éphémère. On t'applaudit sur une scène, tu descends de scène, tu retournes chez toi et tu es seul, tout seul. Tu te rends à un lancement de disque, à une conférence de presse, où tu es entouré de toutes sortes de gens qui te flattent, qui te disent que tu es extraordinaire, et tu te sens encore seul, tout seul. Du moins, dans mon cas, c'était comme ça. Parce que Dieu m'avait créé pour bien mieux que tout ça. Il m'avait créé pour que j'aie une relation intime et personnelle avec lui et pour que je serve à sa gloire. Et finalement, il a placé quelqu'un sur ma route, une personne qui m'a annoncé que Dieu m'avait tant aimé, qu'il avait donné son Fils unique, Jésus, afin qu'en croyant tout simplement en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Il m'offrait de vivre éternellement avec lui, l'auteur de l'amour parfait que j'avais tant cherché. Ce qui me ramène au fameux verset que je vous ai mentionné il y a quelques minutes. « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Mes amis, voilà l'espérance que j'ai saisie. Celle d'entrer dans la présence de Jésus et vivre sur cette terre avec l'assurance que je vais passer l'éternité avec lui. Celui qui m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie sur une croix pour moi, personnellement. Jésus m'a proposé cette espérance et j'ai dit « Oui, Seigneur, je t'accepte pour mon sauveur. Et je veux aussi que tu sois mon Seigneur, mon Maître. Je veux te suivre sur cette terre. » Et il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle. Mon ami, c'est à ton tour de recevoir cette vie. Reconnais-toi aussi que tu es un pécheur. Une pécheresse. La Bible dit que tous ont péché. Il n'y a pas d'exception. Alors change de direction, repens-toi, change de direction à l'égard du péché et saisis l'espérance qui t'est proposée. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, GEG 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.